Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, j'ai décidé de vous parler de l'Europe, puisque finalement c'est un grand sujet de la période. Et surtout pour dénoncer un certain nombre de caricatures qui méritent donc des mises au point. La première, c'est que signifie être pour ou contre l'Europe, puisqu'on, quand on critique, on serait contre l'Europe. Cette affirmation qu'on entend souvent à propos des anti-européens est ridicule et aussi est assez méprisante. On ne demande pas aux Africains s'ils sont pour ou contre l'Afrique, ou aux Asiatiques s'ils sont contre ou pour l'Asie, ça ne veut rien dire. Par contre, si l'on débat de l'Europe politique telle qu'elle a été construite et telle qu'elle agit aujourd'hui, dans quel sens, c'est tout à fait autre chose. Alors la première grande question, est-ce que l'Europe des travailleurs existe véritablement ? L'Europe n'a jamais été conçue pour être celle des travailleurs, pour les faire circuler. Évidemment, pour utiliser des travailleurs mal payés dans notre hexagone, oui, mais pour permettre cette Europe, celle qu'on connaît, elle a été faite pour permettre la concentration du capital. Il n'existe aucune loi pour tirer vers le haut les salaires, aucune loi pour garantir les libertés syndicales, pour garantir le droit de manifester, pour harmoniser vers le haut la durée du travail, pour empêcher les licenciements boursiers. Il n'existe pas de loi sur les minima sociaux, sur la protection sociale, etc. Il n'y a rien dans ce domaine. On peut donc constater que l'Europe sociale, c'est un phénomène, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est hors sujet. Et on peut d'ailleurs le démontrer sur la question des revenus. J'ai regardé un petit peu les revenus pratiqués par habitant, revenus moyens par habitant dans les différents pays d'Europe. Alors d'abord par rapport à la France, eh bien la France, le revenu moyen par habitant, il est de 2 fois inférieur à ceux qui sont tout en haut de l'échelle, à savoir les Luxembourgeois. Et j'ai regardé ensuite, avec des pays qui sont de longue date dans l'Europe, ce qu'il en était des Portugais. Ils sont payés, enfin le revenu moyen, pas seulement les salariés, est 2 fois inférieur à celui de la France. Il est 2,5 fois inférieur pour les Grecs. Il est presque 3 fois inférieur pour les Polonais. Et 4 fois inférieur pour les Roumains et les Bulgares. Et il n'est pas prévu que cela change, il y a des beaux discours, mais il n'y a strictement aucune mesure concrète. Et je dirais pire que cela, est-ce que les écarts se réduisent ? Alors j'ai regardé 2 pays qui sont depuis longtemps dans l'Europe, en particulier le Portugal. Eh bien, pour le Portugal depuis 2000, eh bien, l'écart se creuse avec la France. Pour ce qui est de la Grèce, depuis 20 ans, l'écart se creuse également par rapport à la France, comme aussi par rapport à la moyenne européenne. Donc on ne va pas vers une harmonisation, vers le haut. On ne va pas vers une harmonisation vers le haut. Alors au niveau du social, l'Europe a surtout servi, et vous en souvenez certainement, à propos de l'âge légal de départ en retraite, de nous dire qu'il fallait s'aligner vers le bas. Donc, en fin de compte, on nous a fait mettre en avant le fait qu'il fallait accepter la régression sociale du fait que, en Italie, l'âge de départ légal en retraite est à 67 ans, au Danemark, aux Pays-Bas également, comme si l'antisocial devait être la référence et pas le social. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Il faut savoir que l'âge légal de départ en retraite à 67 ans en Italie est devenu un âge théorique. Ça ne veut pas dire que les gens partent à 67 ans. Ça veut dire que les gens partent épuisés, mais ne sont pas pour autant pris en charge en retraite, comme c'est d'ailleurs de plus en plus le cas en France. Alors, une autre grande question qui est venue surtout dans les précédentes campagnes électorales européennes, qui vient moins aujourd'hui, mais on comprend tout de suite pourquoi. L'Europe sert-elle à faire la paix? Puisque vous vous souvenez qu'on nous a beaucoup dit oui, mais l'Europe sert à garantir la paix. Alors, c'est un argument qui a été souvent utilisé, moins aujourd'hui. Il faut dire vite que l'Europe sert à faire la paix, car nos différents présidents de la République ont été des va-t-en-guerre en Libye, en Syrie. Ils ont aussi participé à, finalement, ce conflit au milieu de l'Europe qui a été l'éclatement de la Yougoslavie avec une guerre particulièrement sanguinaire. Et certains pays d'Europe aussi, pas la France par contre, ont soutenu la guerre en Irak. Donc on voit aussi que, historiquement, de dire que l'Europe sert à faire la paix ou à garantir la paix, ça mérite pour le moins discussion. À propos de paix par rapport aux pays, et à l'origine on pensait à l'Allemagne bien évidemment, est-ce que d'être dans l'Europe permet de garantir la paix? Moi j'en doute, parce qu'il serait ridicule aujourd'hui de dire qu'un conflit armé peut survenir avec des pays qui nous sont très proches, mais néanmoins qui ne sont pas dans l'Europe politique. Je veux parler de la Suisse et aussi la Norvège. On oublie souvent que la Norvège n'est pas dans l'Europe politique, donc ça n'a pas grand sens, on n'a pas de raison de s'inquiéter des pays qui ne seraient pas dans l'Europe pour dire que finalement cette Europe telle qu'elle est construite permettrait de garantir la paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi eu des conflits, j'en ai cité quelques-uns, où les pays d'Europe ont contribué finalement à l'escalade guerrière. Alors je reste sur ce thème, l'Europe sert-elle la paix? On voit clairement que l'Europe, qui a le poids politique potentiel pourtant, pour arrêter immédiatement, en tout cas faire arrêter immédiatement le massacre en Palestine, que certains qualifient de génocide et qui en a quand même beaucoup de caractéristiques, eh bien cette Europe politique qui pourrait le faire ne le fait pas et ne le fera pas d'ailleurs du fait des conceptions des différents pays qui la composent et ses relations avec Israël. Donc on a là une Europe qui pourrait, mais qui ne fait pas exiger, avec le poids qu'elle représente, l'arrêt immédiat du massacre, qu'on peut qualifier aussi de génocide, en Palestine. On pourrait aussi s'interroger sur l'Europe par rapport à un plan de paix en Ukraine, qui n'existe pas. Il n'existe pas de plan de paix soutenu par l'Europe, avec le poids politique qu'elle représente, qui pourrait donc exiger également l'arrêt des combats et de sortir avec un plan de paix. Au lieu de ça, on assiste à un alignement proche de ce que veut les USA, un alignement atlantiste qui montre donc qu'aujourd'hui, finalement, cette Europe telle qu'on la connaît, en tout cas les pays de l'Europe, n'arrivent pas à s'émanciper du poids politique des États-Unis. Si je dis ça, c'est parce que un des arguments de cette construction européenne, c'était de contrebalancer en quelque sorte un peu les rapports de force, d'être plus fort par rapport aux pays dominants, en particulier les États-Unis. On voit que c'est pas du tout le cas, c'est même un peu le contraire, avec l'élargissement des pays qui rentrent dans l'OTAN. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que cette Europe sert la paix, bien au contraire, elle est de plus en plus dépendante finalement du camp occidental, en particulier les États-Unis. Alors j'en viens bien évidemment à la question de l'Ukraine. La question de l'Ukraine, on entend souvent, c'est dit comme une évidence, c'est une évidence, l'Ukraine est un pays d'Europe. Alors c'est une question qui est d'une grande, en tout cas une affirmation, qui est d'une grande hypocrisie. Quand on ouvre les vieux dictionnaires, il est toujours fait état de une Europe dite méridionale, où nous sommes, et une Europe septentrionale à l'est jusqu'à l'Oural. Alors l'Oural, c'est une montagne au milieu de la Russie, à l'est de Moscou, bien à l'est de Moscou. Alors, dans l'usage et depuis toujours, on raisonne sur l'Europe occidentale. Si on raisonne sur l'ensemble, Europe méridionale et Europe septentrionale, alors il faut dire que Moscou est en Europe, comme d'ailleurs la moitié de la Russie, ce que l'on ne fait jamais. Mais l'Europe géographique, c'est ça. Les montagnes de l'Oural séparent l'Europe de l'Asie et se situent déjà très à l'est de Moscou. Alors, pour regarder aussi cette distinction entre Europe politique, Europe géographique, j'ai ouvert le Petit Larousse illustré de l'année 2000. Et ce dictionnaire présente l'Europe à travers les âges avec quatre cartes. Il y a l'Europe médiévale, il y a l'Europe du Congrès de Vienne, c'est-à-dire au début du XIXe siècle. Il y a celle de juste après la Première Guerre mondiale et celle juste après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, les frontières de la carte d'Europe sur ces quatre cartes, sans jamais aller au-delà, ne vont jamais au-delà de la Pologne. Donc si je dis ça, c'est parce que culturellement, en tout cas, il est admis que quand on parle de l'Europe, on parle de l'Europe méridionale, qu'on parle aussi quelquefois d'Europe occidentale, mais jamais de l'Europe géographique qui va jusqu'à l'Oural et qui englobe, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre autres, Moscou et la moitié de la Russie. Donc l'Europe politique a peu de choses à voir avec l'Europe géographique. Et une nouvelle illustration, vous en souvenez il y a peu de temps, quelques années, la demande de la Turquie de rentrer dans l'Europe politique. Et si ça a été refusé provisoirement, en tout cas, ce n'est pas pour des raisons géographiques, pas du tout, c'était pour des raisons politiques. Par contre, il ne faut pas oublier, la Suisse, qui est pourtant au cœur de l'Europe, n'y est pas, mais fort probablement, et j'irai même avec certitude, ses caractéristiques de paradis fiscal y sont certainement pour quelque chose. D'ailleurs, en termes de paradis fiscal qui ne sont pas concernés en apparence par l'Europe politique, hein, on peut citer Jersey, on peut citer Andorre, on peut citer le Liechtenstein, on peut citer Monaco, on peut citer Saint-Marin, et j'en ai probablement oublié. Donc là-dessus, en termes de construction européenne, il y a quand même un hic sur qui est dans l'Europe politique et qui n'y est pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a un petit oublié. Un petit oublié qui est pourtant bien connu, c'est le Vatican. Le Vatican est un État souverain reconnu par l'ONU. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je dis simplement qu'au niveau de l'ONU, le Vatican est un État souverain. Il siège d'ailleurs dans plusieurs organismes onusiens. Alors, on en pense ce que l'on veut, mais très curieusement, il n'est jamais cité comme un État européen. Donc il est internationalement reconnu, mais pas au niveau de l'Europe. C'est assez curieux. Alors en fait, la curiosité, on va la résoudre assez rapidement. D'abord, le Vatican ne revendique pas de rentrer dans l'Europe. C'est déjà une première raison. Et la raison de fond, c'est que le Vatican est un paradis fiscal lui aussi. Donc quand on sait ça, on peut dire qu'on a à peu près tout compris. Alors il y a tout de même des pays qualifiés de paradis fiscaux qui sont dans l'Europe à moindre niveau, mais tout de même qualifiés de paradis fiscaux, c'est-à-dire l'île de Malte et le Luxembourg. Alors ils ont une particularité, ces deux pays, ils ont un poids surdimensionné puisqu'ils disposent chacun de six députés, au niveau du Parlement européen, soit presque 10 fois plus que la moyenne globale qui est d'avoir un député pour 1 million d'habitants. Donc ils y sont, mais avec des règles du jeu particulière puisqu'ils sont surreprésentés en matière de députés, hein, je viens de le dire, 6 fois plus que la moyenne puisqu'il y a grosso modo un député pour 1 million d'habitants, sauf pour eux. Voilà. Alors parmi les arguments sur cette nécessité de l'Europe, on a beaucoup entendu par le passé, mais curieusement on ne le dit pas beaucoup en cette période, mais on comprend aussi pourquoi, l'Europe sert-elle à empêcher la montée du fascisme ? Ça a été aussi mis en avant à une époque. Alors c'est un argument évidemment important, mais pour autant, est-ce qu'il a une réalité aujourd'hui ? Eh bien, la réalité aujourd'hui, c'est à l'évidence non, puisqu'en Pologne, en Hongrie, en Autriche, en Italie, en Suède, aux Pays-Bas, il y a une progression des partis dits populistes, mais qui sont en réalité très proches du fascisme. On a des gouvernements xénophobes, je pense aussi à l'Autriche, entre autres, hein, populistes, réactionnaires vis-à-vis des femmes qui remettent en cause finalement le droit à l'avortement, par exemple, ou qui ont des positionnements tout à fait détestables par rapport aux minorités comme les homosexuels et aussi par rapport à la population émigrée qui fuit la misère. Donc on a une montée de ce populisme et de ce fascisme en Europe, dans des pays qui sont adhérents de longue date, et on ne peut pas dire que l'Europe sert à empêcher la montée du fascisme, puisque matériellement, concrètement, on mesure en fait le contraire. Je ne dis pas que l'Europe le favorise, mais en tout cas, le résultat est qu'il y a une progression de ce côté-là. Un dernier point que je voulais développer, l'Europe sert-elle à protéger l'environnement ? On en a l'exemple avec le énième recul sur l'interdiction du glyphosate qui a été repoussé une fois encore, qui est illustratif du poids des lobbies dans les institutions européennes. On le voit aussi avec les accords internationaux de libre-échange qui bénéficient aux grosses structures et pas du tout aux petits agriculteurs. Ces accords internationaux de libre-échange sont signés par les partis d'extrême droite au Parlement européen qui prétendent devant notre télé et ailleurs finalement faire le contraire. Mais il faut savoir que les partis populistes et les partis d'extrême droite votent les accords internationaux de libre-échange, même si certains ont le culot de se présenter lors des barrages qu'organisent les paysans. En fin de compte, ils font le contraire de ce qu'ils disent quand ils sont à Bruxelles, de ce qu'ils disent quand ils vont voir les gens qui manifestent. Alors ça m'amène à une question, comment se prennent les décisions en Europe ? Il y a 571 députés européens. Mais il faut savoir que l'essentiel du travail est réalisé par la Commission européenne. Donc c'est, il y a le Parlement, mais il y a aussi la Commission européenne, qui, elle, est composée de hauts fonctionnaires désignés par les États. Et dans leur entourage gravitent 4 000 lobbyistes, mandaté par le patronat principalement, qui œuvre à influencer, voire corrompre en toute tranquillité. Donc on a les députés, on a la Commission européenne qui a un rôle surdimensionné par rapport au fait que ce sont des hauts fonctionnaires qui ne sont pas élus finalement, et on a à côté 4 000 lobbyistes qui travaillent d'arrache-pied, pour influencer sur les contenus des projets de loi, et c'est comme ça que ça se passe à Bruxelles. Ça mériterait un grand nettoyage par rapport notamment aux lobbyistes qui ont carrément pignon sur rue. Voilà ce que je voulais vous dire sur la question de cette Europe. Cette Europe, on l'a appelée l'Europe de Maastricht, pour citer finalement les orientations. Les orientations de l'Europe de Maastricht, je le rappelle par rapport à mon thème principal, une Europe sociale ou antisociale, les directives européennes issues de Maastricht, c'est de privatiser à peu près tout, sauf la police, la justice et l'armée. tout le reste est privatisable. Et si j'ajoute qu'on le mesure en France avec l'énergie, avec EDF, on le mesure avec la SNCF, on le mesure avec la Poste, on le mesure avec la santé et l'hôpital public, je pourrais allonger la liste, on voit que ça se met en œuvre. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors évidemment, c'est pas un appel à voter pour Pierre-Paul Jacques, ce que je viens de dire, et d'ailleurs j'en ai pas moralement le droit, mais au moins pour éclairer la situation sur cette Europe sociale qui, dans les faits, n'existe pas, et c'est pourtant la seule question qui vaille, en tout cas pour les travailleurs, où il y a tout à faire. Voilà, si j'ai pu vous aider à réfléchir sur le sujet, eh bien j'en suis heureux. Et aussi, et je l'ai fait un petit peu, mais c'était aussi pour mettre des bâtons dans les roues à ma façon, pour ceux qui prétendent que l'Europe serait finalement quelque chose qui va dans le bon sens, dans le sens du progrès social, et qui, au Parlement européen, vote tout à fait à l'inverse. Voilà, je vous dis à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, vrai.
Ah, bien sûr. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.